Pour plus de clarté, je vais exposer ici, point par point, l'organisation du gouvernement hébreu. D'abord, il fut ordonné au peuple de bâtir un édifice qui fut comme le palais de Dieu, c'est-à-dire de la souveraine majesté de l'État. Et cet édifice fut construit non pas aux frais d'un seul homme, mais du peuple tout entier, afin que le lieu où Dieu devait être consulté appartînt également à tous. Ce palais divin eut en quelque sorte pour officier et pour administrateur les Lévites, entre lesquels Moïse choisit, pour être chef suprême après Dieu, son frère Aaron, auquel ses fils devaient légitimement succéder. Ce chef, le premier après Dieu, fut chargé d'interpréter les lois, de transmettre au peuple les réponses de l'oracle divin et d'offrir des sacrifices à Dieu pour le peuple. S'il eut ajouté à toutes ses prérogatives le pouvoir exécutif, il ne lui eut plus rien manqué pour être souverain absolu, mais cela lui fut refusé, ainsi qu'à toute la tribu de Lévi qui, loin d'avoir en main aucun pouvoir, ne reçut pas même, comme les autres tribus, une portion de terre qui lui appartint en propre et dont elle put tirer sa subsistance. Moïse voulut que le peuple tout entier contribue à sa nourriture et en même temps environna de respect et d'honneur cette tribu, seule consacrée au culte de Dieu. Ensuite, les 12 autres tribus formèrent une milice et reçurent l'ordre d'envahir la terre de Canaan, de la diviser en 12 parties et de les tirer au sort entre les tribus. Pour cela, on choisit 12 chefs, un dans chaque tribu, lesquels avec Josué et le souverain pontife Éléazar furent chargés de diviser les terres en 12 parties et de les distribuer par la voie du sort. Josué fut élu le chef suprême de la milice et à lui seul fut conféré le droit d'abord de consulter Dieu dans les nouvelles affaires qui surviendraient, non pas comme Moïse, seul dans sa tente ou dans le tabernacle, mais par l'intermédiaire du souverain pontife qui recevait seul la réponse de Dieu. Ensuite, d'exécuter et de faire respecter par le peuple les ordres de Dieu transmis par le pontife, de trouver et d'employer les moyens de les exécuter, de choisir dans l'armée autant de chefs qu'il voudrait et ceux qu'il voudrait, d'envoyer des députés en son propre nom, et enfin de disposer avec une liberté absolue de tout ce qui concerne la guerre. Personne ne devait le remplacer par droit de légitime succession, et son successeur ne pouvait être élu que par Dieu, sur la demande expresse du peuple tout entier. Parfois même, tout ce qui concerne la paix et la guerre fut remis aux mains des chefs de tribu, comme je le montrerai bientôt. Enfin, Moïse ordonna que tous les Hébreux portassent les armes depuis 20 jusqu'à 60 ans, et que l'armée recrutée tout entière dans les rangs du peuple jura fidélité, non au général, non au souverain pontife, mais à la religion ou à Dieu. Voilà pourquoi l'armée ou les bataillons furent appelés l'armée de Dieu ou les bataillons de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fut appelé chez les Hébreux le Dieu des armées. Voilà pourquoi, dans la grande bataille qui devait décider du triomphe ou de la défaite du peuple tout entier, l'arche d'alliance était portée du milieu de l'armée, afin que les soldats, voyant leur roi pour ainsi dire présent dans leur rang, fissent des efforts extraordinaires. Ces dispositions de Moïse montrent clairement qu'il voulut laisser au peuple après lui des administrateurs, non des tyrans. Aussi, ne donna-t-il à personne le droit de consulter Dieu, seul et dans le lieu qui lui plairait, non plus, par conséquent, que le droit qu'il avait lui-même d'établir et d'abolir les lois, de décider de la paix et de la guerre, d'élire les administrateurs du temple et des villes, toutes choses qui n'appartiennent qu'à celui qui possède le pouvoir absolu. Le souverain pontife avait le droit d'interpréter les lois et de transmettre les réponses de Dieu, non comme Moïse, chaque fois qu'il le voulait, mais seulement sur la demande du général ou de l'Assemblée suprême ou de quelque autre corps constitué. De leur côté, le général en chef de l'armée et les assemblées pouvaient consulter Dieu quand ils le voulaient, mais ils ne pouvaient recevoir la réponse de Dieu que par l'intermédiaire du souverain pontife. De sorte que la parole de Dieu dans la bouche du souverain pontife n'était pas un décret comme dans la bouche de Moïse, mais une simple réponse. Transmise à Josué et aux assemblées, elle prenait force de loi, c'était un ordre, un décret. D'après ces dispositions, le souverain pontife qui recevait directement les réponses de Dieu n'avait pas d'armée sous ses ordres et n'exerçait aucun pouvoir légitime dans le gouvernement de l'État. Et réciproquement, ceux qui possédaient des terres n'avaient pas le droit d'établir des lois. Les souverains pontifes Aaron et son fils Éléazar furent l'un et l'autre élus par Moïse. Mais après la mort de Moïse, personne n'hérita du droit d'élire le souverain pontife, et le fils succéda légitimement à son père. De même, le général de l'armée fut élu par Moïse et non par l'autorité du souverain pontife. C'est en recevant ces droits de Moïse qu'il prit la fonction de général. Voilà pourquoi, après la mort de Josué, le pontife n'élut personne à sa place. Voilà pourquoi les chefs des tribus ne consultèrent pas Dieu sur le choix d'un nouveau général, mais chacun exerça sur les soldats de sa tribu et tous ensemble exercèrent sur toute l'armée les droits qui avaient appartenu à Josué. Et il ne me semble pas qu'ils aient eu besoin d'un chef suprême, si ce n'est dans les circonstances où l'armée entière réunie marchait contre un ennemi commun. C'est ce qui arriva, surtout au temps de Josué, lorsque les Hébreux n'avaient pas encore de résidence bien fixe et que toute chose appartenait à tous. Mais après que les terres prises par le droit de la guerre eussent été partagées entre les tribus et que toute chose n'appartint plus à tous, par cela même, la nécessité d'un chef commun cessa de se faire sentir. Les hommes des différentes tribus étant, grâce à cette distribution, les uns par rapport aux autres, moins des concitoyens que des alliés. Relativement à Dieu et à la religion, ils devaient être considérés comme des concitoyens, relativement aux droits d'une tribu sur l'autre, comme de simples alliés. Les tribus étaient toutes semblables en cela, à l'exception du temple qui leur était commun aux États confédérés des Hollandais. Qu'est-ce en effet que la division en différentes parties d'un bien commun, si ce n'est la possession exclusive par chacun de la portion qui lui échoit, et de la part des autres l'abandon volontaire de leurs droits sur cette même portion. Voilà pourquoi Moïse élut des chefs de tribus. Il voulut qu'après la division de l'État, chaque chef veillât sur les intérêts des siens, consultât Dieu par l'intermédiaire du souverain pontife. Sur les affaires de sa tribu, commanda l'armée, fonda et fortifia les villes, établit des juges dans chaque cité, repoussa ses ennemis particuliers, administra tout ce qui concerne la paix et la guerre, enfin, qu'il n'y eut point d'autre juge que Dieu pour chaque chef. Dieu, dis-je, et les prophètes expressément envoyés par lui. Un chef abandonnait-il la loi de Dieu? Les autres tribus devaient, non pas le juger comme un sujet, mais en tirer vengeance comme d'un ennemi qui aurait manqué à la fois les traités. Nous avons des exemples dans l'Écriture. Après la mort de Josué, les fils d'Israël, et non pas un nouveau général des armées, consultèrent Dieu. Il fut répondu que la tribu de Juda devait la première faire invasion chez les ennemis qui lui étaient particuliers. Elle fit donc alliance avec la tribu de Siméon pour envahir avec leurs forces réunies leurs ennemis communs. Les autres tribus restèrent en dehors de cette alliance. Voyez les Juges, chapitre 1, 2, 3. Chacune et séparément, comme nous l'avons rencontré dans le précédent chapitre, fit la guerre contre ses ennemis particuliers et selon son bon plaisir reçut les soumissions de tel ou tel peuple, bien que les décrets de Dieu défendissent d'en épargner aucun, à quelque condition que ce fût, et ordonnasse de tout exterminer. Cette infraction est blâmée à la vérité, mais on ne voit pas que personne ait appelé en jugement les tribus coupables. Ce n'était pas là, en effet, un motif suffisant pour les Hébreux de lever les armes contre eux-mêmes et de s'immiscer les uns dans les affaires des autres. Quant à la tribu de Benjamin, qui avait outragé le reste de la nation et brisé le lien de la paix au point que personne ne put trouver chez elle une hospitalité sûre, les autres tribus la traitèrent en ennemie, envahirent son territoire et, victorieuses enfin après 3 combats, enveloppèrent tout, coupables et innocents, dans un massacre sur lequel elles répandirent ensuite des larmes tardives. Ces exemples confirment pleinement ce que nous avons dit du droit de chaque tribu. Mais peut-être quelqu'un demandera qui choisissait le successeur du chef de tribu. Sur ce point, il est impossible de rien recueillir de certain dans la Bible. Voici toutefois ce que je conjecture. Chaque tribu était divisée en familles, et les chefs de famille étaient choisis parmi les vieillards de chaque famille. Le plus ancien parmi ces derniers succédait au chef de la tribu. N'est-ce pas en effet parmi les anciens que Moïse choisit 70 conseillers qui formaient avec lui l'Assemblée suprême? Ceux qui, après la mort de Josué, eurent l'administration de l'État, ne sont-ils pas appelés du nom de vieillards dans l'Écriture? Les Hébreux n'appellent-ils pas sans cesse les juges les anciens? Et tout le monde ne sait-il pas cela? Mais pour le but que nous nous proposons, il importe peu d'éclaircir ce point. Il suffit que nous ayons montré qu'après la mort de Moïse, personne ne remplit les fonctions de chef suprême absolu, puisque, en effet, ce n'était ni la volonté d'un seul homme, ni celle d'une seule assemblée, ni celle du peuple qui décidait de toutes les affaires, mais que les unes étaient administrées par une seule tribu, les autres par toutes les tribus avec un droit égal. Ne résultait-il pas avec la dernière évidence que le gouvernement après la mort de Moïse ne fut ni monarchique, ni aristocratique, ni populaire, mais qu'il fut, comme nous l'avons dit, théocratique? Et cela par les raisons suivantes. Premièrement, le siège de l'État était un temple, et c'est par là seulement, comme nous l'avons montré, que les hommes de toutes les tribus étaient concitoyens. Deuxièmement, tous les membres de l'État devaient jurer fidélité à Dieu, leur juge suprême, auquel seul ils avaient promis en toute chose une obéissance absolue. Troisièmement, enfin, le commandant suprême des armées, quand il en était besoin, ne pouvait être élu que par Dieu seul. C'est ce que dit expressément Moïse au nom de Dieu dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 15. C'est ce que confirme l'élection de Gédéon, de Samson et de Samuel, de sorte qu'on saurait douter que les autres chefs fidèles à Dieu n'aient été élus de la même manière, bien que cela ne soit pas constaté par leur histoire. Reste à voir maintenant jusqu'à quel point une telle constitution était propre à maintenir les esprits dans la modération et à retenir le gouvernant et les gouvernés également loin, ceux-ci de la rébellion, ceux-ci de la tyrannie. Ceux qui administrent l'État ou qui ont le pouvoir en main, quelque action qu'ils fassent, s'efforcent toujours de la revêtir des couleurs de la justice et de persuader au peuple qu'ils ont agi dans des vues honorables. Ce qui est chose facile quand l'interprétation du droit est en leur pouvoir. Il n'est pas douteux, en effet, qu'un tel privilège ne leur donne la plus grande liberté possible de s'abandonner à tous leurs caprices et à toutes leurs passions. Au contraire, cette liberté serait fortement contenue si le droit d'interpréter la loi était dans les mains d'un autre, et si la vraie interprétation de la loi était si manifeste pour tout le monde qu'il n'y eut pas d'hésitation possible. D'où il suit clairement que les chefs des Hébreux eurent une grande occasion de moins de commettre des crimes par cela seul que le droit d'interpréter la loi fut confié aux Lévites. Voyez le Deutéronome, chapitre 21, verset 5, qui ne possédait dans l'État ni terre ni pouvoir administratif et dont toute la fortune et toute la gloire consistaient dans la vraie interprétation de la loi. Ajoutez à cela que le peuple entier était obligé, chaque septième année, de se rassembler dans un lieu déterminé où le pontife expliquait et enseignait la loi et, en outre, que chacun en particulier devait lire et relire sans cesse, avec la plus grande attention, le livre de la loi tout entier. Voyez le Deutéronome, chapitre 31, verset 9, etc., et chapitre 6, verset 7. Aussi, les chefs des Hébreux, dans leur propre intérêt, devaient-ils veiller à ce que toutes choses fussent administrées selon les lois prescrites et connues de tout le monde. Seul moyen pour eux d'être comblés d'honneur par le peuple, qui respectait alors en eux les ministres du royaume de Dieu et les représentants de Dieu lui-même. De toute autre manière, ils ne pouvaient échapper à la plus terrible de toutes les haines de religion. En outre, ce qui ne contribua pas peu à mettre un frein aux passions des chefs, c'est que l'armée se composait de tous les citoyens, sans exception d'un seul, depuis la 20e jusqu'à la 60e année, et que les chefs ne pouvaient enrôler à prix d'argent aucun soldat étranger. Cela, dis-je, n'était pas de médiocre importance. N'est-ce pas, en effet, une chose évidente que ce n'est qu'avec une armée à leur solde que les chefs peuvent opprimer le peuple, et qu'ils ne redoutent rien tant que la liberté de soldats concitoyens qui ont payé de leur courage, de leur fatigue, de leur sang prodigué sur les champs de bataille, la liberté et la gloire de l'État. Voilà pourquoi Alexandre, sur le point d'engager un second combat contre Darius, après avoir entendu l'avis de Parménion, ne s'emporta pas contre lui, mais bien contre Polysperchon qui partageait cependant le même avis. C'est que, comme dit Quintocurse, livre 4, chapitre 13, il n'osa pas faire de nouveaux reproches à Parménion qu'il avait, peu de temps auparavant, réprimandé avec trop de violence. Et cette liberté des Macédoniens qu'il redoutait tant, comme nous l'avons déjà dit, il ne put la plier sous le joug qu'après que les captifs entrés dans l'armée surpassèrent en nombre les Macédoniens. Alors, il lâcha la bride à son humeur emportée, si longtemps contenue par la liberté des soldats ses concitoyens. Or, si dans un état purement humain, la liberté de soldats concitoyens retient ainsi des chefs qui ont coutume d'accaparer pour eux seuls l'honneur de la victoire, combien cette même liberté dut-elle être un frein plus puissant pour les chefs des Hébreux, dont les soldats combattaient, non pour la gloire du chef, mais pour la gloire de Dieu, et n'engageaient l'action que sur la réponse formelle de Dieu. Ajoutez encore que les chefs des Hébreux étaient tous unis entre eux par le lien de la religion. Quelqu'un d'entre eux y était-il infidèle, et violait-il le droit divin d'un autre chef? Par là même, il pouvait être considéré comme ennemi, et les dernières extrémités contre lui étaient légitimes. Ajoutez en troisième lieu la crainte de quelques nouveaux prophètes. Un homme d'une vie irréprochable prouvait-il par quelques signes qu'il était véritablement prophète? À lui appartenait le droit souverain de commander tel que l'avait possédé Moïse, à qui Dieu se révélait directement, et non pas comme aux autres chefs par l'intermédiaire du pontife. Or, il n'est point douteux qu'un tel homme ne mit facilement dans son parti un peuple opprimé, et à l'aide de quelques signes le disposa de sa confiance à son gré. Mais si l'État était bien administré, le chef pouvait à l'avance disposer les choses de telle sorte que le prophète dut d'abord se soumettre à son jugement et qu'il lui appartint d'examiner si sa vie était irréprochable, si les signes qu'il donnait de sa mission étaient certains et incontestables, Enfin, si ce qu'il venait annoncer au nom de Dieu était en harmonie avec la doctrine reçue, avec les lois générales de la patrie. Et dans le cas où les signes n'étaient pas assez manifestes et où la doctrine était nouvelle, le chef avait le droit de condamner le prophète à mort. Mais quand le prophète était dans les intérêts du prince, il suffisait de l'autorité et du témoignage du chef de l'État pour le faire accepter au peuple. Ajoutez en quatrième lieu que le chef ne l'emportait sur le reste du peuple ni par la noblesse ni par le droit du sang, mais que c'était à son âge et à sa vertu qu'il devait d'administrer l'État. Ajoutez enfin que, chef et armée, personne ne préférait la guerre à la paix. L'armée, en effet, comme nous l'avons déjà dit, ne recevait dans ses rangs que des citoyens, et c'étaient les mêmes hommes, dans la guerre comme dans la paix, qui avaient les affaires en main. Le même homme était soldat au camp, citoyen sur la place publique, officier au camp, juge dans la cité, commandant général au camp, chef suprême dans la ville. Aussi, personne ne désirait-il la guerre pour la guerre, mais en vue de la paix, et dans le but de défendre la liberté. Même le chef, pour éviter d'aller consulter le souverain pontife et de se tenir debout devant lui par respect pour sa dignité, repoussait autant que possible toute situation nouvelle. Telles sont les raisons qui contenaient l'autorité des chefs dans de justes limites. Maintenant, quelles sont celles qui retenaient le peuple? Elles ressortent avec évidence de la constitution fondamentale de l'État. Il suffit de l'examiner même légèrement pour se convaincre qu'elle dut nourrir dans l'esprit du peuple un singulier amour de la patrie et lui rendre presque impossible la pensée d'une trahison ou d'une défection, mais que tous les Hébreux, au contraire, durent être disposés à tout souffrir plutôt que de se soumettre à la domination étrangère. Eux, qui avaient remis leurs droits dans les mains de Dieu, qui croyaient que leur royaume était le royaume de Dieu, et qu'ils étaient seuls les fils de Dieu, que toutes les autres nations étaient ses ennemis, et qui, à ce titre, les accablaient de la haine la plus violente, c'était selon eux un acte de piété, voyez le psaume 139, verset 21-22, comment n'aurait-il pas eu par-dessus tout horreur de jurer fidélité et de promettre obéissance à l'étranger? Pouvait-il concevoir un plus honteux forfait, un crime plus exécrable que de trahir la patrie, royaume du Dieu qu'ils adoraient? C'était même une chose honteuse pour un citoyen de fixer sa demeure ailleurs que dans sa patrie, parce qu'il n'était permis de satisfaire au culte de Dieu que sur le sol de la patrie, la patrie seule étant une terre sainte et tout autre pays une terre immonde et profane. Voilà pourquoi David, forcé de s'exiler, se répand en plainte devant Saül. « Si ceux qui excitent ta colère contre moi sont des hommes, ils sont maudits, puisqu'ils me retranchent de la société et de l'héritage de Dieu et qu'ils me disent « Va et sacrifie au Dieu étranger. » Voyez Samuel 26, verset 19. Et c'est pour ce motif qu'aucun citoyen, ce qui mérite d'être bien remarqué, ne pouvait être condamné à l'exil. Le coupable en effet mérite le supplice et non la honte et l'opprobre. L'amour des Hébreux pour la patrie n'était donc pas simplement de l'amour, c'était de la religion. Et cet amour, cette religion, en même temps que leur haine pour les autres nations, était tellement encouragée et nourrie par le culte de chaque jour qu'il leur était devenu naturel. En effet, non seulement leur culte de chaque jour était essentiellement différent de tout autre, ce qui les distinguait et les séparait profondément d'avec les autres peuples, mais ces différences allaient jusqu'à l'opposition. Or, de cette réprobation dont ils accablaient chaque jour les autres nations, dut naître une haine éternelle, fermement enracinée dans tous les esprits, comme peut l'être une haine qui a son origine dans la dévotion et la piété, et qui étant considérée comme un acte pieux, n'a pas d'égal pour la violence et l'opiniâtreté. Ajoutez à cela une cause générale qui enflamme de plus en plus la haine, à savoir la réciprocité, car les autres nations durent avoir en retour pour les Juifs la haine la plus violente. Que réunissent maintenant toutes ces circonstances, la liberté dans l'État, l'amour de la patrie porté jusqu'à la religion, à l'égard des autres peuples, un droit absolu et une haine non seulement permise mais pieuse, l'habitude de voir des ennemis partout, la singularité des mœurs et des coutumes. Combien tout cela ne dut-il pas contribuer à affermir l'âme des Hébreux et les préparer à tout supporter pour la patrie avec une constance et un courage peu communs? C'est ce qu'enseigne clairement la raison et ce qu'atteste l'expérience. Jamais en effet, tant que la ville capitale fut debout, les Hébreux ne purent supporter la domination étrangère, et c'est pourquoi on appelait Jérusalem la cité rebelle. Voyez Esdras, chapitre 4, verset 12-15. Le Second Empire, qui fut à peine une ombre du premier après que les pontifes eurent usurpé le pouvoir souverain, ne put être que difficilement détruit par les Romains. C'est ce que Tacite, livre 2, des Histoires, atteste par ses paroles. Vespasien avait terminé la guerre judaïque en abandonnant le siège de Jérusalem, entreprise pénible et ardue à cause du caractère de la nation et de l'opiniâtreté de ses superstitions, bien qu'il ne restât pas aux assiégés assez de force pour supporter les suites d'un siège. Mais, outre ces circonstances dont l'appréciation dépend un peu du caprice de l'opinion, il y avait encore dans cet état quelque chose de particulier et de très puissant, qui dut retenir les citoyens dans le devoir et éloigner de leur esprit toute pensée de défection, tout désir d'abandonner la patrie. Je veux parler de l'intérêt, qui dirige et anime toutes les actions humaines. Et cela, dis-je, était particulier à cet état. C'est que nulle part, et dans aucun état, les citoyens ne jouissaient de leurs biens avec des droits égaux à ceux des Hébreux qui possédaient une part de terre et de champs égale à celle du chef, et demeuraient éternellement maîtres de la part qui leur était échue. Quelqu'un, pressé par le besoin, vendait-il son fonds ou sa terre, le jubilé arrivait, il rentrait complètement en possession, et toute chose était tellement disposée que personne ne put aliéner le bien fondé qui était sa propriété. Ensuite, la pauvreté ne pouvait être nulle part aussi facile à supporter que dans un pays où la charité envers le prochain, c'est-à-dire de citoyen à citoyen, devait être pratiquée comme un acte souverainement pieux et comme l'unique moyen de se rendre Dieu propice. Il n'y avait donc de bonheur pour les Hébreux qu'au sein de leur patrie. Hors de là, ils ne pouvaient trouver que dommage et opprobre. Quoi de plus merveilleusement propre, non seulement à retenir les citoyens sur le sol de la patrie, mais aussi à les préserver des guerres civiles, en bannissant tout sujet de querelle et de discorde, que de reconnaître pour souverain, non pas un égal, mais Dieu seul, et de considérer comme un acte de souveraine piété cette charité, cet amour de citoyen à citoyen qui s'alimentait sans cesse de la haine que les Juifs portaient aux autres nations et que celles-ci leur envoyaient. Ce qui n'était pas non plus d'une médiocre importance, c'est cette discipline qui les pliait de bonne heure à une obéissance absolue, obligés qu'ils étaient de se soumettre en toute chose aux prescriptions invariables de la loi. Ainsi, il n'était permis à personne de labourer à son gré, mais seulement à de certaines époques et dans de certaines années déterminées, avec une seule et même espèce de bête de trait. De même, il n'était permis de semer, de moissonner, que d'une certaine manière et à une certaine époque. Leur vie, enfin, était comme un perpétuel sacrifice à l'obéissance. Sur ce sujet, voyez notre chapitre 5, de l'usage des cérémonies. Ainsi, habitués à des pratiques invariablement les mêmes, cette servitude dut leur paraître la vraie liberté. Personne ne désirait ce qui était défendu, mais bien ce qui était ordonné par la loi. Mais ce qui ne contribua pas non plus médiocrement à entretenir des bonnes dispositions chez les Hébreux, c'est que la loi leur faisait un devoir à certaines époques de l'année de se livrer au repos et à la joie, et cela pour obéir non pas aux vœux de leur cœur, mais à Dieu de tout leur cœur. Trois fois l'an, ils étaient les convives de Dieu. Voyez le Deutéronome, chapitre 16. Le septième jour de la semaine, ils devaient s'abstenir de tout travail et se livrer au repos. En outre, certaines autres époques étaient désignées pendant lesquelles les plaisirs honnêtes et les festins leur étaient non seulement permis, mais ordonnés. Et je ne pense pas qu'on puisse rien imaginer de plus efficace pour gouverner les esprits des hommes. Rien ne les charme davantage que cette joie qui a son origine dans la dévotion, laquelle est un mélange d'admiration et d'amour. D'ailleurs, ils étaient prémunis contre le dégoût qu'amène la longue habitude des mêmes choses par la rareté et la variété des cérémonies usitées dans les jours de fête. Ajoutez à cela ce souverain respect pour le temple, qui fut tel pour les Hébreux, qu'ils se montrèrent toujours religieux observateurs des cérémonies particulières qu'ils devaient accomplir selon la loi avant d'y entrer. C'est au point qu'aujourd'hui même les Hébreux ne sauraient lire sans un profond sentiment d'horreur le récit du crime de Manassé, qui osa élever une idole au milieu du temple. À l'égard des lois religieusement conservées au fond du sanctuaire, même profond respect de la part du peuple. Aussi n'avait-on à craindre de sa part ni rumeur, ni jugement anticipé. Qui oserait porter un jugement sur les choses divines? À tous les ordres prescrits, ou par les réponses de Dieu parlant dans le temple, ou par les lois établies de Dieu lui-même, les Hébreux devaient obéir sur le champ et sans examen. Je crois avoir montré brièvement, il est vrai, mais assez clairement, les avantages de la constitution des Hébreux. Reste à rechercher maintenant pourquoi les Hébreux ont été si souvent infidèles à la loi, si souvent réduits en servitude, et quelles causes enfin ont amené leur ruine complète. Quelqu'un dira peut-être qu'il faut attribuer cette décadence à l'esprit séditieux de la nation. Mais cette explication est puérile. Pourquoi en effet la nation juive a-t-elle été plus séditieuse que les autres? Est-ce la nature qui l'a fait ainsi? Mais la nature ne crée pas des nations. Elle crée des individus qui ne se distinguent en différentes nations que par la diversité de la langue, des lois et des mœurs. C'est de ces deux choses seules, les lois et les mœurs, que dérivent pour chaque nation un caractère particulier, une manière d'être particulière, tel ou tel préjugé particulier. Si donc on devait accorder que les Hébreux ont eu plus que tous les autres hommes l'esprit de sédition, c'est à l'avis des lois et des mœurs qu'ils reçurent de leurs législateurs qu'il faudrait l'imputer. Et certes, il est incontestable que si Dieu eût voulu que leur empire eût plus de persistance, il eût donné au peuple d'autres droits, d'autres lois, et institué un autre mode d'administration. Qu'avons-nous donc autre chose à dire, si ce n'est qu'ils eurent contre eux la colère de leur Dieu ? Non seulement, comme le dit Jérémie, chapitre 32, verset 31, depuis la fondation de la ville, mais dès l'institution des lois. C'est ce qu'Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, témoigne par ses paroles. « Je leur ai donné de mauvaises institutions et des lois qui ne laissent à la nation aucune chance de durer. Je les ai souillés de leur propre présent lorsqu'ils offraient pour leur péché ce qui sort le premier du sein de la mère, c'est-à-dire les premiers-nés, parce que je voulais consommer leur ruine et leur apprendre que je suis Jéhovah. » Pour comprendre ces paroles et la cause de la ruine de l'État, il faut qu'on sache qu'il avait d'abord été résolu que l'on confierait le ministère sacré à tous les premiers-nés et non aux seuls Lévites. Voyez les Nombres, chapitre 3, verset 17. Mais le peuple tout entier, à l'exception des Lévites, ayant adoré le veau d'or, les premiers-nés furent répudiés par Dieu et déclarés souillés. Les Lévites furent choisis à leur place. Or, plus je considère cette modification dans la Constitution, plus je songe aux paroles de Tacite, que de ce temps-là, Dieu songea moins à la prospérité du peuple qu'à la vengeance, Histoire 1, 3, et je ne puis assez m'étonner que la colère céleste ait été assez grande pour que Dieu se soit servi des lois, qui n'ont d'ordinaire d'autre but que la gloire, le salut et la sécurité du peuple tout entier, comme d'un instrument de vengeance et de châtiment général, à tel point qu'elles aient paru moins des lois accommodées au bien-être du peuple que des peines et des supplices infligés à la nation. Tous les dons, en effet, que les citoyens étaient obligés de faire aux Lévites et aux prêtres, la nécessité de racheter les premiers-nés, de payer un certain impôt par tête, le privilège exclusif pour les Lévites d'approcher des choses sacrées, tout cela accusait sans cesse le peuple et lui rappelait son impureté primitive et la réprobation dont il était l'objet. Les Lévites, d'ailleurs, l'accablaient sans cesse de mille reproches, car il n'était pas douteux qu'au milieu de cette multitude de Lévites, il ne se rencontra un grand nombre de misérables théologiens véritablement intolérables. Et de là, chez le peuple, l'habitude d'observer d'un œil ennemi les actions des Lévites qui, après tout, étaient des hommes, et comme il arrive, de les accuser tous du crime d'un seul. Par suite, de perpétuelles rumeurs. Ajouter l'obligation de nourrir des hommes oisifs, odieux, et qui ne se rattachaient point au peuple par les liens du sang, charge qui paraissait particulièrement pesante quand les vivres étaient chers. Les Lévites étaient donc plongés dans l'oisiveté, les miracles éclatants ayant cessé, enfin, les pontifes n'étant plus des hommes d'un choix sévère. Faut-il s'étonner que l'esprit religieux d'un peuple irrité à la fois et avare ait commencé à se refroidir et à s'éloigner peu à peu d'un culte qui, bien que divin, lui était ignominieux et même suspect, pour en désirer à nouveau que les chefs, qui aspirent toujours à s'emparer exclusivement de souverain pouvoir pour s'attacher le peuple et le détourner du pontife, lui ait fait toutes sortes de concessions et ait introduit dans la patrie de nouveaux cultes ? Mais si la République eût été instituée d'après le plan primitif, droit et honneur, toute chose eût été égale pour toutes les tribus, et l'État eût joui d'une sécurité complète, quel homme consentirait à violer les droits sacrés de ceux qui lui sont unis par le lien du sang ? Qui n'aimerait à remplir un devoir de religion en nourrissant ses frères ou des parents ? Qui ne se plairait à être instruit par eux dans l'interprétation des lois, à recevoir de leur bouche les réponses divines ? Et puis, toutes les tribus s'étaient unies entre elles par un lien beaucoup plus étroit, si elles eussent toutes exercé également le droit d'administrer les choses sacrées. Il y a plus. Tout danger eût disparu si l'élection des Lévites n'avait pas eu pour cause la colère et la vengeance. Mais comme nous l'avons déjà dit, les Hébreux furent l'objet de la colère de leur Dieu qui, pour répéter les paroles d'Ézéchiel, les souilla de leur propre présent en leur envoyant les fruits du sein maternel afin de consommer leur ruine. Toutes ces explications, d'ailleurs, l'histoire les confirme. À peine le peuple dans le désert eut-il quelque repos, que plusieurs, élevés au-dessus du peuple par leur rang et leur naissance, supportèrent difficilement cette élection des Lévites, et en prirent l'occasion de supposer que Moïse établissait et instituait toutes choses, non d'après les ordres de Dieu, mais selon son caprice. N'avait-il pas choisi cette tribu de préférence à toutes les autres, et donné éternellement à son frère le droit du pontificat ? Aussi vont-ils trouver Moïse en grand tumulte, s'écriant que tous les Hébreux sont également saints et que sa propre autorité sur tout le peuple est une infraction au droit. Moïse ne peut les apaiser. Mais un miracle s'accomplit en témoignage de sa mission, et les rebelles sont tous exterminés. De là, une nouvelle sédition à laquelle prend part le peuple entier, persuadé que la cause de la mort des siens, c'est moins le jugement de Dieu que l'artifice de Moïse. Celui-ci ne parvint à calmer le peuple qu'après qu'une horrible peste lui a battu, à ce point que la mort lui paraissait préférable à la vie. La sédition, c'est ça plutôt que la concorde s'établit. C'est ce qu'atteste l'Écriture dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 21, où Dieu, après avoir prédit à Moïse que le peuple, après sa mort, sera fidèle au vrai culte, ajoute « Je connais les passions du peuple, je sais ce qu'il médite en son esprit, maintenant que je ne l'ai pas encore conduit dans la terre que je lui ai promise par serment. » Et peu après, Moïse dit lui-même au peuple « Je connais votre cœur rebelle et votre esprit séditieux. Si pendant ma vie vous vous êtes révolté contre Dieu, combien plus le ferez-vous après ma mort ?» Et c'est en effet ce qui arriva, comme cela est assez connu. De là, de grands changements, une licence effrénée, le luxe et la paresse, et par suite, toutes choses inclinant à la ruine, jusqu'à ce que le peuple, plusieurs fois réduit en servitude, rompit brusquement avec le roi divin et réclama un roi mortel, voulant substituer au temple une cour véritable et fonder la confédération des tribus, non plus sur le droit divin et le pontificat, mais sur le pouvoir royal. Mais ce nouvel gouvernement ouvrit la porte à de nouvelles séditions qui amenèrent finalement la ruine de l'État. Qu'y a-t-il dans les faits de moins supportable au roi qu'une autorité précaire et une puissance rivale au sein même de leur puissance? Les premiers qui furent élevés de la condition privée à la royauté furent satisfaits de leur nouvelle dignité. Mais leurs fils, qui montèrent sur le trône par droit de légitime succession, peu à peu modifièrent toutes les institutions afin de s'approprier le pouvoir entier qui leur échappait en partie tant que les lois ne dépendaient pas de leur volonté, mais étaient remises sous la sauvegarde du pontife qui les conservait dans le sanctuaire et les interprétait au peuple. Ils étaient donc soumis comme leurs sujets à l'empire des lois. Ils ne pouvaient les abroger, ni en instituer de nouvelles et leur conférer la même autorité qu'aux anciennes. Et puis le droit des Lévites défendait au roi comme aux sujets, profanes qu'ils étaient, d'administrer les choses sacrées. De plus, ils se trouvaient avec toute leur puissance à la merci du caprice du premier homme qui se ferait reconnaître pour prophète, comme il est arrivé en plusieurs rencontres. On sait avec quelle liberté Samuel donnait ses ordres à Saül, et avec quelle facilité, pour une seule faute, il transporta le pouvoir dans les mains de David. Les rois y voyaient donc un autre pouvoir contrebalancer sans cesse leur autorité, et n'avaient qu'une autorité précaire. Pour surmonter ces obstacles, ils imaginèrent d'élever d'autres temples aux dieux, car de cette façon, ils n'étaient pas obligés de consulter les Lévites et de chercher des hommes qui voulussent bien prophétiser en leur faveur au nom de Dieu, afin de les opposer aux vrais prophètes. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'obtinrent jamais l'objet de leurs vœux. En effet, les prophètes, prêts à tout, attendaient le moment favorable, un nouveau règne par exemple, toujours précaire, tandis que subsiste le souvenir du précédent. Alors, ils suscitaient facilement quelques rois revêtus de l'autorité divine, renommés par ses vertus et qui venaient revendiquer le droit divin et s'emparer légitimement ou du pouvoir tout entier ou d'une partie du pouvoir. Mais les prophètes n'obtenaient encore par ces moyens aucun résultat satisfaisant. Car si chassés de l'État un tyran, les causes de la tyrannie ne leur subsistaient pas moins. Ils ne faisaient qu'acheter un nouveau tyran au prix de beaucoup de sang. Ainsi, il n'y avait point de fin au désordre et aux guerres civiles. Les mêmes raisons subsistant toujours de violer le droit divin, elles ne disparurent qu'avec l'État lui-même. Nous voyons par les considérations précédentes comment la religion s'introduisit dans la constitution des Hébreux et de quelle manière leur gouvernement eût pu être éternel si la juste colère de leur divin législateur n'y eût apporté aucune modification. Mais parce que les choses ne purent se passer ainsi, il dut périr. Nous n'avons parlé ici que du premier empire, c'est que le second fut à peine une ombre du premier. Les Hébreux étaient alors soumis à la domination persane, et quand ils eurent recouvré la liberté, les pontifes s'emparèrent du pouvoir exécutif et disposèrent d'une puissance absolue. De là, chez les prêtres, d'ambitieux efforts pour envahir à la fois le trône et le pontificat. Voilà pourquoi nous n'avons pas dû insister sur le Second Empire. Quant au premier, avec les chances de durée que nous croyons qu'il avait selon sa primitive constitution, peut-il être imité? Doit-il être imité autant que cela est possible? C'est ce qui ressortira des considérations qui vont suivre. Nous voulons seulement, pour accomplir toute cette recherche, faire une remarque que nous avons déjà indiquée, savoir qu'il est démontré par ce chapitre que le droit divin ou religieux est fondé sur un pacte, à défaut duquel il n'existe aucun autre droit que le droit naturel. Et que c'est pour ce motif que les Hébreux n'étaient tenus par la religion à aucun amour pour les autres nations, qu'ils n'avaient point pris part à ce pacte, en sorte que la charité n'était chez eux un devoir qu'entre concitoyens.